Bonsoir. Ouais, on en... Si, c'est bon, non. Là, c'est bon ? Ouais, je crois que c'est bon. De toute façon, on va péter l'ambiance, alors autant avoir des bugs techniques dès le début.
C'est même pas la peine qu'on m'entende, en fait. Si ?
On t'entend pas trop, hein ?
Non, on m'entend pas beaucoup, non. Il y a beaucoup de... Ah, ça y est, on m'entend. Il y a...
Ah, voilà.
Il y a des petits poils issus d'une écharpe, peut-être, sur ce micro.
Ça bah, j'espère ça que c'est un une écharpe.
Oui.
Parce qu'il y a eu pas mal de monde à passer à ce micro.
C'est vrai. Est-ce qu'il faut que je change de micro ?
Il y aura peut-être des poils d'écharpe dans tous les micros.
Mm.
J'espère que c'est des écharpes.
Alors, on va tabler sur le fait qu'à ce micro, ce sont des poils d'écharpe.
Oui, on va se dire ça.
Voilà. Mm. Alors, on est là pendant une heure pour carrément calmer l'ambiance, parce que là, c'est le
feu. Ah oui, calmer, pas casser.
Ah, on va la casser, malheureusement, mais on est là pour la calmer, parce que là, tout le monde est quand même un petit peu en feu à l'intérieur.
Tout le monde a... De toute façon, tout le monde s'en fout, personne n'écoute.
Là, franchement, on a coupé un super set de musique fait par Joe.
Et tout le monde s'ambiançait, mais là, on va bien faire retomber l'ambiance.
On voit bien qu'il n'y a aucune réaction dans la salle.
Non, non, tout le monde s'en fout, hein, vraiment.
C'est ça.
Il n'y a aucune réaction. On peut dire absolument ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut dire un truc vraiment scandaleux pour voir si ça réagit ou pas ?
Je sais pas. Tu veux dire un truc scandaleux ? Tu as une idée de truc scandaleux à dire ?
Le caca, c'est délicieux.
Ça réagit pas.
Non, ça réagit pas du tout. Hein.
Même avec le temps de réaction, ça réagit.
Non, vraiment. Bon, bah, on peut vraiment se lâcher, du coup.
Très bien. Eh ben, ça tombe bien parce que du coup, on enchaîne. On fait un petit truc de calme avant le set live, quand même, quoi.
Va falloir se recentrer sur soi un peu. Là, je trouve que les gens sont un peu énervés.
Ah, ça réagit un petit peu quand même. Il y a des gens qui réagissent un petit peu quand même. Ok. D'accord.
Et on réagit. Hein.
Ok. D'accord. Bon, très bien. Ah voilà, bah, comme vrai, il fallait une phrase choc, tu vois, il fallait une phrase choc pour que ça marche. Ok, très bien. Ah, bah, bon, là c'est bon, bah, du coup maintenant on a tout le monde qui est bien concentré.
Super. Bien. Donc on reste à l'écoute, s'il vous plaît, on ne se déconcentre pas. Ah non, par contre, non.
C'est pas possible, j'ai pas droit au micro.
Alors il y a une demande de micro, je sais pas quoi faire.
Bah lance peut-être le...
Je lance quoi? Sur qui?
Le Nancy Houston.
Oui, tout à fait. Alors, je vais lancer un son que propose Anaïs. C'est un texte de Nancy Houston qui est lu par une voix automatique et qui a été passé à la moulinette de plusieurs langues. Il y a d'abord le français, ensuite il y a l'italien, le portugais, le tamoul, le japonais et puis un retour au français. Et c'est accompagné de harpe dans le fond. Donc, on peut écouter ça pour commencer, histoire de bien se calmer ensemble.
Animaux nous sommes, mammifères, primates supérieurs, etc. Sans plus de raison d'être sur la planète Terre, ni d'y faire quoi que ce soit, que les autres espèces, sur cette planète ou une autre. Mais nous sommes spéciaux, tous les animaux, diversement, constatent, enregistrent, réfléchissent. Leurs sens transmettent des informations lacunaires à leur cerveau qui construit à partir d'elles l'image d'un monde complet. Ils en tirent des conclusions, se les communiquent, coopèrent. S'efforcent de survivre de leur mieux. Notre spécialité, notre prérogative, notre manie, notre gloire et notre chute, c'est le pourquoi. Pourquoi le pourquoi ? D'où surgit-il ? Le pourquoi surgit du temps. Et le temps, d'où vient-il ? L'univers n'a pas de sens. Il est silence. Personne n'a mis de sens dans le monde, personne d'autre que nous. Le sens dépend de l'humain et l'humain dépend du sens. À l'instar de la nature, nous ne supportons pas le vide. Sommes incapables de constater sans aussitôt chercher à comprendre. Et comprenons. Par le truchement des récits, c'est-à-dire des fictions. Quand des antilopes arrivent devant un lit de rivière desséchée, elles cherchent de l'eau ailleurs où elles meurent de soif. Les humains, devant le même constat désolant, tout en cherchant de l'eau ailleurs, et avant de mourir de soif, interprètent. Ils prient, danse, cherche des coupables. Se lance dans des rituels de propitiation pour convaincre les esprits d'envoyer de la pluie. Le sens est promu en sens. Tout est par nous ainsi traduit, métamorphosé, métaphorisé. Oui, même à l'époque moderne, désenchanté, scientifique, rationnel, inondé de lumière.
Animali siamo. Mammiferi, primati super superiori, eccetera. Senza più motivo per essere sul pianeta Terra, né per fare nulla lì, rispetto ad altre specie, su questo pianeta o su un altro. Ma noi siamo speciali, tutti gli animali, in vario modo, osservano, registrano, riflettono. I loro sensi hanno trasmesso informazioni incomplete al loro cervello, che costruisce su di loro l'immagine di un mondo completo. Kain Kaha, traggono conclusioni, le comunicano tra loro, cooperano, cercano di sopravvivere come possono. La nostra specialità, la nostra prerogativa, la nostra mania, la nostra gloria e la nostra rovina, ecco perché. Perché il perché, da dove nasce, il perché emerge dal tempo. E il tempo, da dove viene? L'universo non ha significato. C'è silenzio. Nessuno dava un senso al mondo, nessuno tranne noi. Il senso dipende dall'umano e l'umano dipende dal senso. Come la natura. Non possiamo sopportare il vuoto. Siamo incapaci di osservare senza cercare subito di capire. E capiamo, attraverso le storie, cioè le finzioni. Quando le antilopi arrivano davanti al letto di un fiume inaridito, cercano acqua altrove o muoiono di sete. L'uomo, di fronte alla stessa triste constatazione, mentre cerca l'acqua altrove. E prima di morire di sete, interpreta. Pregano, ballano, cercano colpevoli, si impegnano in rituali di propiziazione per convincere gli spiriti a mandare la pioggia. Il senso è promosso nel senso. Tutto è così tradotto, metamorfosato, metaforizzato da noi. Sì, anche nei tempi moderni, disillusi, scientifici, razionali, inondati di illuminazione.
Somos animais, mammiferos, primatas super superiores, etc., sem mais razão de estar no planeta Terra, nem de fazer nada lá, em comparação com outras espécies, neste planeta ou em outro. Mas somos especiais, todos os animais, de várias maneiras, observam, registram, refletem, seus sentidos transmitiram informações incompletas ao cérebro, que lhes deu a imagem de um mundo completo. Karin Karran, tire conclusões, comunique-as entre si, coopere, tente sobreviver o melhor que puderem, nossa especialidade, nossa prerrogativa, nossa mania, nossa glória e nossa queda, é por isso. Por que porque, de onde veio, o porquê surge com o tempo, e o tempo, de onde vem? O universo não tem significado. Silêncio, ninguém entendeu o mundo, ninguém além de nós. O sentido depende do humano e o humano depende do significado, como a natureza, não podemos suportar o vazio, não podemos observar sem tentar compreender imediatamente, e entendemos. Por meio das histórias, ou seja, as ficções, quando os antílopes chegam em frente ao leito de um rio seco, procuram água em outro lugar ou morrem de sede. O homem, diante da mesma triste observação. Enquanto procura água em outro lugar, e antes de morrer de sede, interpreta, eles oram, dançam, procuram os culpados, se envolvem em rituais de propiciação para convencer os espíritos a mandar chuva. O sentido é promovido no sentido, tudo é assim traduzindo. Metamorfoseado, metaforizado por nós, sim, mesmo nos tempos modernos, desiludido, científico, racional, inundado de iluminação.
விலங்குகள் நாங்கள் பாலூட்டிகள் சூப்பர் மேலான விலங்குகள் போன்றவை. பூமியில் இருப்பதற்கு வேறு எந்த காரணமும் இல்லாமல் மற்ற உயிரினங்களை விட இந்த கிரகத்தில் அல்லது இன்னொரு இடத்தில் எதுவும் செய்ய முடியாது. ஆனால் நாங்கள் சிறப்பு. அனைத்து விலங்குகளும் பல்வேறு வழிகளில் கவனித்தல் பதிவு செய்தல் பிரதிபலிக்கின்றன. அவர்களின் புலன்கள் முழுமையற்ற தகவல்களை அவர்களின் மூளைக்கு அனுப்புகின்றன. இது ஒரு முழுமையான உலகின் உருவத்தை உருவாக்குகிறது. காஹின் கஹா அவர்கள் முடிவுகளை எடுக்கிறார்கள், ஒருவருக்கொருவர் தொடர்பு கொள்கிறார்கள், ஒத்துழைக்கிறார்கள், தங்களால் இயன்றவரை வாழ முயற்சி செய்கிறார்கள். எங்கள் சிறப்பு, எங்கள் உரிமை, எங்கள் பித்து, எங்கள் பெருமை மற்றும் வீழ்ச்சி. அதனால்தான் ஏனேன் அது எங்கிருந்து எழுகிறது, ஏன் காலத்திலிருந்து வெளிப்படுகிறது, நேரம் அது எங்கிருந்து வருகிறது. பிரபஞ்சத்திற்கு எந்த அர்த்தமும் இல்லை. நம் இருக்கிறது உலகை பற்றி யாரும் உணரவில்லை. நம்மை தவிர வேறு யாரும் இல்லை. உணர்வு மனிதனை பொறுத்தது, மனிதன் உணர்வை பொறுத்தது. இயற்கையைப் போலவே நாம் ஒரு வெற்றிடத்தை நிற்க முடியாது. உடனடியாக புரிந்து கொள்ள முற்படாமல் நாம் கவனிக்க இயலாது. கதைகள் மூலம், அதாவது புனைகதைகள் என்று புரிந்து கொள்வோம். வறண்ட ஆற்றங்கரைக்கு மிருகங்கள் வரும்போது அவை தண்ணீருக்காக வேறு இடங்களை பார்க்கின்றன அல்லது தாகமாக இருக்கின்றன. மனிதர்கள் அதே சோகமான அவதானிப்பை எதிர்கொண்டு வேறொரு இடத்தில் தண்ணீரை தேடும் போது தாகத்தால் இறப்பதற்கு முன் விளக்குகிறார்கள். அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள், நடனம் செய்கிறார்கள், குற்றவாளிகளை தேடுகிறார்கள், மழையை அனுப்ப ஆவிகள் சமாதானப்படுத்த பிரசங்க சடங்குகளில் ஈடுபடுகிறார்கள். சென்சில் சென்ஸ் விளம்பரப்படுத்தப்படுகிறது. எல்லாமே இவ்வாறு மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன, உருமாற்றம் செய்யப்பட்டன, உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஆம், நவீன காலங்களில் கூட ஏமாற்றமடைந்த விஞ்ஞான பகுத்தறிவு அறிவொளியில் வெள்ளம்.
私たちは動物です。超優れた動物などの哺乳類。地球上にいる他の理由がなければ、この惑星や他の生き物以外の場所では何もできません。しかし、私たちは特別です。すべての動物は、様々な方法で、観察、記録、及び反映します。彼らの感覚は不完全な情報を彼らの脳に送り、それが完全な世界のイメージを作り出します。カヒンカハ、彼らは決断を下し、お互いにコミュニケーションを取り、協力し、可能な限り生きようとします。私たちの専門性、資格、狂気、誇りと堕落、それが理由です。なぜですか？それはどこから来たのですか？なぜ時から現れるのか？時間、それはどこから来るのですか？宇宙には意味がありません。H ナムはです。誰も世界について気づいていません。私たちだけです。意識は人間に依存し、人間は感情に依存します。自然のように、私たちは真空に立つことはできません。すぐに理解しようとしないと気づきません。物語によって、私たちはそれをフィクションとして理解しています。動物が乾いた川岸に来ると、他の場所で水を探すか、喉が渇きます。同じ悲劇的な観察に直面している人間は、喉の渇きで死ぬ前に、他の場所で水を探します、と彼は説明します。彼らは祈り、踊り、犯人を探し、そして雨を降らせるために霊をなだめるために儀式を説教します。センスインセンスが宣伝されています。したがって、すべてが変換、変換、およびシミュレートされます。はい、現代でも、失望した、科学的、合理的な、悟りの洪水。
Nous sommes des animaux.
Les mammifères sont comme des animaux extraordinaires. Rien ne peut être fait ailleurs que sur cette planète ou toute autre créature pour aucune autre raison sur Terre. Mais nous personnellement, tous les animaux ont été observés, enregistrés et reflétés de différentes manières. Leur sens envoie des informations incomplètes à leur cerveau, ce qui crée l'image du monde. K1KA, ils prennent des décisions, communiquent, travaillent ensemble et essaient de vivre du mieux qu'ils peuvent. Nos compétences, nos capacités, notre stupidité, notre fierté et notre corruption en sont la raison. Mais pourquoi d'où vient-il ? Mais pourquoi cela arrive-t-il parfois ? D'où vient le temps ? Il n'y a pas de sens dans l'univers. H.Numdia. Personne ne connaît le monde, nous seuls. La conscience dépend des êtres humains et les êtres humains dépendent des émotions. Par nature, nous ne pouvons pas rester dans le vide. Vous ne le verrez que si vous essayez de le comprendre tout de suite. Historiquement, nous le connaissons comme de la fiction. Lorsque les animaux atteignent les rives d'une rivière asséchée, ils cherchent de l'eau ailleurs où ont soif. Les personnes confrontées à des symptômes horribles similaires cherchent de l'eau ailleurs avant d'avoir soif, explique-t-il. Ils prient, dansent, recherchent les méchants et prêchent des rituels pour calmer les âmes afin que la pluie vienne. Sense in Sense est publié. Ainsi, tout a été changé, altéré et remis à neuf. Oui, encore aujourd'hui. La lumière est complexe, scientifique, équilibrée et légère.
Texte de Nancy Houston, l'espèce fabulatrice. Et maintenant, on va écouter Anaïs lire Sorcière de Mona Chollet.
En fait, je vais essayer de le lire.
Peut-être je peux préciser que il est donc.
Ouais, c'est ça parce qu'il y a, s'il y a des gens qui réécoutent plus tard et vont ça. Pas se rendre compte.
Il faut expliquer un petit peu. Il est minuit 20.
Ça et donc, fait quasiment.
Ça fait 12 heures.
Ça fait plus de 12 heures qu'on fait du live en continu, enfin avec des prêts à diffuser, mais qu'on bosse en continu, qu'on n'a pas trop, qu'on s'est pas trop reposé. Et du coup, si on a l'air un peu fatigué, c'est normal, c'est parce qu'on l'est.
C'est ça. C'est réel.
C'est ça. Faut que je m'installe. Donc, c'est une partie de l'introduction de Sorcière de Mona Chollet. Il m'a fallu un temps étonnamment long pour mesurer le malentendu que recouvrait la débauche de fantaisie, l'imagerie d'héroïne au super-pouvoir associé aux sorcières dans les productions culturelles qui m'entouraient. Pour comprendre que, avant de devenir un stimulant pour l'imagination ou un titre honorifique, le mot sorcière avait été la pire des marques d'infamie, l'imputation mensongère qui avait valu la torture et la mort à des dizaines de milliers de femmes. C'est pas très joli. Dans la conscience collective, les chasses aux sorcières. Oh putain, pourquoi je rigole, c'est horrible, mais je suis fatiguée. Dans la conscience collective, les chasses aux sorcières qui se sont déroulées en Europe essentiellement au XVIe et XVIIe siècle occupent une place étrange. Les procès en sorcellerie reposaient sur des accusations extravagantes. Le vol de nuit pour se rendre au sabbat, le pacte et la copulation avec le diable qui semblent les avoir entraînés à leur suite dans la sphère de l'irréalité, les arrachant à leur ancrage historique. À nos yeux, quand nous la découvrons aujourd'hui, la première représentation connue d'une femme volant sur un balai dans la marge du manuscrit de Martin Lefranc, le champion des dames, a des allures légères et facétieuses. Elle semble surgie d'un film de Tim Burton, du générique de Ma sorcière bien-aimée ou d'une décoration de Halloween. Et pourtant, au moment où elle apparaît, vers 1440, elle annonce des siècles de souffrance. Évoquant l'invention du sabbat, l'historien Guy Bechtel constate « Ce grand poème idéologique a beaucoup tué. Quant aux tortures sexuelles, leur réalité semble s'être dissoute dans l'imagerie sadienne et les émois troubles qu'elle suscite. » En 2016, le musée Saint-Jean de Bruges consacre une exposition aux sorcières de Bruegel, le maître allemand ayant été le premier peintre à s'emparer de ce thème. Sur un panneau figuraient les noms des dizaines de femmes de la ville brûlées comme sorcières sur la place publique. Beaucoup d'habitants de Bruges portent toujours ces noms de famille et ignoraient, avant de visiter l'exposition, qu'ils ont peut-être eu une ancêtre accusée de sorcellerie. Ils disaient cela en souriant, comme si le fait de compter dans son arbre généalogique une innocente massacrée sur la base d'allégations délirantes était une partie anecdote trop sympa à raconter à ses amis. Et l'on s'interroge, de quel autre crime de masse, même ancien, est-il possible de parler ainsi le sourire aux lèvres ? En anéantissant parfois des familles entières, en faisant régner la terreur, en réprimant sans pitié certains comportements et certaines pratiques désormais considérées comme intolérables, les chasses aux sorcières ont contribué à façonner le monde qui est le nôtre. Si elles n'avaient pas eu lieu, nous vivrions probablement dans des sociétés très différentes. Elles nous en disent beaucoup sur les choix qui ont été faits, sur les voies qui ont été privilégiées et celles qui ont été condamnées. Pourtant, nous nous refusons à les regarder en face. Même quand nous acceptons la réalité de cet épisode de l'histoire, nous trouvons les moyens de le tenir à distance. Ainsi, on fait souvent l'erreur de le situer au Moyen-Âge, dépeint comme une époque reculée et obscurantiste avec laquelle nous n'aurions plus rien à voir, alors que les grandes chasses se sont déroulées à la Renaissance. Elles ont commencé vers 1400 et pris de l'ampleur, surtout à partir de 1560. Des exécutions ont encore eu lieu à la fin du XVIIIe siècle, comme celle d'Anna Goldie, décapitée à Glaris en Suisse en 1782. La sorcière, écrit Guy Bechtel, fut une victime des modernes et non des anciens. De même, on met souvent les persécutions sur le compte d'un fanatisme religieux incarné par des inquisiteurs pervers. Or, l'Inquisition, avant tout préoccupée des hérétiques, a très peu pourchassé les sorcières. L'écrasante majorité des condamnations ont été le fait de cours civils. En matière de sorcellerie, les juges laïcs se sont révélés plus cruels et plus fanatiques que Rome. La distinction n'a d'ailleurs qu'un sens très relatif dans un monde où il n'existait pas d'en dehors possible à la croyance religieuse. Même les quelques voix qui s'élevèrent contre les persécutions, comme celle du médecin Jean Vailleur, qui en 1563 dénonça un bain de sang d'innocents, ne remettaient pas en question l'existence du diable. Quant aux protestants, malgré leur image de plus grande rationalité, ils ont traqué les sorcières avec la même ardeur que les catholiques. Le retour à une lecture littérale de la Bible prônée par la Réforme ne favorisait pas la clémence, au contraire. À Genève, sous Calvin, on exécuta 35 sorcières au nom de deux lignes de l'Exode qui disent « Tu ne laisseras pas vivre la magicienne ». L'intolérance du climat de l'époque, l'orgie sanguinaire des guerres de religion, 3000 protestants tués à Paris, à la Saint-Barthélemy, en 1572, ont nourri la cruauté des deux camps à leur égard. À vrai dire, c'est précisément parce que les chasses aux sorcières nous parlent de notre monde que nous avons d'excellentes raisons de ne pas les regarder en face. S'y risquer, c'est se confronter au visage le plus désespérant de l'humanité. Elles illustrent d'abord l'entêtement des sociétés à désigner régulièrement un bouc émissaire à leur malheur, à s'enfermer dans une spirale d'irrationalité, inaccessible à toute argumentation sensée, jusqu'à ce que l'accumulation des discours de haine et une hostilité devenue obsessionnelle justifie le passage à la violence physique, perçue comme une légitime défense du corps social. Elles illustrent, pour reprendre les mots de Françoise Daubonne, la capacité humaine à déchaîner un massacre pour un raisonnement digne d'un aliéné. La diabolisation des femmes qualifiées de sorcières ont d'ailleurs beaucoup en commun avec l'antisémitisme. On parlait du sabbat ou de la synagogue des sorcières. On les soupçonnait, comme des juifs, de conspirer pour détruire la chrétienté et on les représentait comme eux avec le nez crochu. En 1618, un greffier qui s'ennuie lors d'une exécution près de Colmar dessine l'accusé dans la marge de son compte-rendu. Il la représente avec une coiffure traditionnelle juive à pans de loques entourée d'étoiles de David. Comme souvent, la désignation du bouc émissaire, loin d'être le fait d'une populace grossière, est venue d'en haut, des classes cultivées. La naissance du mythe de la sorcière coïncide à peu près avec celle en 1454 de l'imprimerie, qui a joué un rôle essentiel. Bechtel parle d'une opération médiatique qui utilisa tous les vecteurs d'information de l'époque. Les livres pour ceux qui lisaient, les sermons pour les autres, pour toute grande quantité de représentations. Pour tous, grande quantité. Ouais. Œuvre de deux inquisiteurs.
Les sermons pour tous. C'est pas ça ?
Les sermons pour les autres.
Ah oui. Pour tous, une grande quantité.
Ouais. C'est ça. Œuvre de deux inquisiteurs, l'Alsacien Henri Institoris et le Balois Jacob Sprenger, le marteau des sorcières, publié en 1487. A pu être comparé à Mein Kampf d'Adolf Hitler. Ça y est, on a atteint le point Godwin. Réédité une quinzaine de fois, il fut diffusé à 30 000 exemplaires dans toute l'Europe durant les grandes chasses. Pendant ce temps de feu, dans tous les procès, les juges vont s'en servir. Ils vont poser les questions du Malleus et entendre les réponses du Malleus. De quoi battre en brèche notre vision un brin idéalisé des premiers usages de l'imprimerie. Accréditant l'idée d'une menace imminente qui exige l'emploi de moyens exceptionnels, le marteau des sorcières entretient une hallucination collective. Son succès fait naître d'autres vocations de démonologues qui nourrissent un véritable filon éditorial. Les auteurs de ces ouvrages, tels le philosophe français Jean Bodin, qui y apparaissent comme des fous furieux, étaient par ailleurs des érudits et des hommes de grand renom. Quel contraste avec la crédulité, la brutalité dont ils firent tous preuve dans leur exposé démonologique. Je zappe des passages parce que c'est bon.
Alors,
qu'est-ce que je lis ensuite ? Quelle sorcière cramée on va... Certaines accusées étaient à la fois des magiciennes et des guérisseuses. Un mélange déconcertant à nos yeux, mais qui allait de soi à l'époque. Elles jetaient ou levaient des sorts, fournissaient des filtres et des potions, mais elles soignaient aussi les malades et les blessés ou aidaient les femmes à accoucher. Elles représentaient le seul recours vers lequel le peuple pouvait se tourner et avaient toujours été des membres respectés de la communauté jusqu'à ce qu'on assimile leurs activités à des agissements diaboliques. Plus largement, cependant, toute tête féminine qui dépassait pouvait susciter des vocations de chasseurs de sorcières. Répondre à un voisin, parler haut, avoir un fort caractère ou une sexualité un peu trop libre, être une gêneuse d'une quelconque manière suffisait à vous mettre en danger. Dans une logique familière aux femmes de toutes les époques, chaque comportement et son contraire pouvaient se retourner contre vous. Il était suspect de manquer la messe trop souvent, mais il était suspect aussi de ne jamais la manquer. Suspect de se réunir régulièrement avec des amis, mais aussi de mener une vie trop solitaire. L'épreuve du bain le résume bien. La femme était jetée à l'eau. Si elle coulait, elle était innocente. Si elle flottait, elle était une sorcière et devait donc être exécutée. On retrouve également beaucoup le mécanisme du refus d'aumône. Les riches qui dédaignaient la main tendue d'une mendiante et qui ensuite tombaient malades ou souffraient d'une infortune quelconque s'empressaient de l'accuser de leur avoir jeté un sort, transférant ainsi sur elle un obscur sentiment de culpabilité. Dans d'autres cas, on rencontre la logique du bouc émissaire sous sa forme la plus pure. Des navires sont en difficulté sur la mer, Digne-Robert en Belgique est saisi, brûlé, exposé sur une roue. Un moulin près de Bordeaux ne fonctionne plus, on prétend que Jeanne Noals, dite Gache, la chevillait. Qu'importe qu'il s'agissait de femmes parfaitement inoffensives, leurs concitoyens étaient persuadés qu'elles détenaient un pouvoir de nuire sans limite. Dans la tempête de Shakespeare, il est dit de l'esclave Caliban que sa mère était une puissante sorcière. Et François Guizot précisait à ce sujet dans sa traduction « Dans toutes les anciennes accusations de sorcellerie en Angleterre, on trouve constamment l'épithète « strong », »,« forte », »,« puissante », associée au mot « witch », comme une qualification spéciale et augmentative. Les tribunaux furent obligés de décider, contre l'opinion populaire, que le mot « strong » n'ajoutait rien à l'accusation. Avoir un corps de femme pouvait suffire à faire de vous une suspecte. Après leurs arrestations, les accusés étaient dénudés, rasés et livrés à un piqueur qui recherchait minutieusement la marque du diable à la surface comme à l'intérieur de leur corps, en y enfonçant des aiguilles. N'importe quelle tache, cicatrice ou irrégularité pouvait faire office de preuve et on comprend que les femmes âgées aient été confondues en masse. Cette marque était censée rester insensible à la douleur, or beaucoup de prisonnières étaient si choquées par ce viol de leur pudeur, par ce viol tout court, qu'elles s'évanouissaient à moitié et ne réagissaient donc pas aux piqûres. En Écosse, des piqueurs passaient même dans les villages et les villes en proposant de démasquer les sorcières qui se dissimulaient parmi leurs habitantes. En 1649, la ville anglaise de Newcastle-upon-Tyne engagea l'un d'eux en lui promettant 20 shillings par condamné. 30 femmes furent amenées à la mairie et déshabillées. La plupart, quelle surprise, furent déclarées coupables. Comme lorsque je lis le journal, j'en ai appris davantage que je ne l'aurais jamais souhaité sur la cruauté humaine, avoue Anne Barstow dans l'introduction de son étude des chasses aux sorcières européennes. Et en effet, le récit des tortures est insoutenable. Le corps désarticulé par les strapades, brûlé par des sièges en métal chauffé à blanc, les os des jambes brisés par des brodequins, les démonologues recommandent de ne pas se laisser émouvoir par les larmes attribuées à une ruse diabolique et forcément feinte. Les chasseurs de sorcières se montrent à la fois obsédés et terrifiés par la sexualité féminine. Les interrogateurs demandent inlassablement aux accusés comment était le pénis du diable. Le marteau des sorcières affirme qu'elles ont le pouvoir de faire disparaître les sexes masculins et qu'elles en conservent des collections entières dans des boîtes ou dans des nids d'oiseaux où ils frétillent désespérément. On n'en a cependant jamais retrouvé. Par sa forme phallique, le balai qu'elles chevauchent, en plus d'être un symbole ménager et détourné, témoigne de leur liberté sexuelle. Le sabbat est vu comme le lieu d'une sexualité débridée, hors de contrôle. Les tortionnaires jouissent de la domination absolue qu'ils exercent sur les prisonnières. Ils peuvent donner libre cours à leur voyeurisme et leur sadisme sexuel. S'y ajoutent les viols par les gardiens. Lorsqu'une détenue est retrouvée étranglée dans son cachot, on dit que le diable est venu reprendre sa servante. Beaucoup de condamnés, au moment de leur exécution, ne peuvent même plus tenir debout. Mais même si elles sont soulagées d'en finir, il leur reste à affronter une mort atroce. Le démonologue Henri Boguet relate la fin de Claude Ajam Guillaume qui trouve par trois fois la force de s'échapper du bûcher. Le bourreau n'avait pas respecté sa promesse de l'étrangler avant que les flammes ne l'atteignent. Elle l'oblige ainsi à tenir parole. La troisième fois, il l'assomme de sorte qu'elle meurt inconsciente. Mmh. Voilà.
Très bien.
Bah ouais, délicieux. C'est délicieux, hein, c'est brutal, mais c'est pour se rappeler qu'on a cramé des bonnes femmes parce que c'était des femmes libres. C'est important de s'en rappeler.
C'est assez fou ce truc de tout et son contraire, quoi. Mmh. Vraiment.
De toute façon, quoi que tu faisais, t'étais coupable.
Et ce test de couler ou flotter est quand même assez énorme. Je pense que.
Ouais. Soit tu mourrais noyé, soit tu mourrais pas, mais du coup tu mourrais sur le bûcher parce que t'avais pas coulé, quoi.
Oui, puis enfin, si je veux dire, s'il l'avait fait sur n'importe quelle personne, il serait rendu compte que généralement on a tendance à flotter, quoi. sauf accident.
Ça, ils avaient pas l'air fut-fut les juges à ce moment-là, hein, quand même. On va pas se le cacher. Tu buvais des tisanes et tu baisais avec plus d'une personne dans ta vie, bah t'étais une sorcière, en gros. Et donc fallait te cramer.
Si t'avais les cheveux blancs, si t'avais.
Oui,
ouais. Donc, si t'étais grand chose,
femme,
en fait.
Gros. Ouais, ouais. C'est ça. Mais et du ben, coup, c'est un peu violent, donc on va peut-être faire une petite transition.
Et ben, ce qui est super, en fait, c'est qu'on a un petit truc qui colle carrément, parce qu'on a un courrier du cœur, ouais. Écoutez. Donc ça va aller carrément dans le thème, là.
Ah ouais, là, on est totalement dedans.
Courrier du cœur. Est-ce la fin de la monogamie ? J'ai besoin des lumières du courrier du cœur. Alors, vaste question, est-ce la fin de la monogamie ? Ça manque de contexte un peu et de...
Bah déjà, de quand date la monogamie ? Parce que ouais. Ça n'a pas été le modèle... universel depuis le début de l'humanité. Hein.
Tout à fait, et c'est, je suppose du coup que c'est dans le contexte occidental et européen.
Moderne, quoi.
Que, voilà, c'est ça. Est-ce la fin de la monogamie ?
Et catholique aussi ?
Oui, potentiellement, oui. Mm. Tout à fait. Est-ce la fin de la monogamie ?
Bah, c'est vrai que ces dernières années, il y a quand même une ouverture des modèles amoureux beaucoup plus que... Enfin, ça va beaucoup plus vite, quoi. En l'espace de 10 ans, les choses ont bougé plus que les 200 dernières années, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a une explosion un peu du modèle de couple hétéronormé, monogame. Ça va aussi avec l'explosion des modèles, enfin de la famille nucléaire, quoi. On est en train de remettre ça en question aussi.
Ouais, qui était déjà une création, quoi. C'est une création qui a à peine même pas 100 ans, en fait.
Je sais pas si c'est la fin de la monogamie, mais en tout cas, c'est plus le modèle
Le monopole.
Oui, voilà. Enfin, ça doit quand même être encore un petit peu le monopole, mais il est beaucoup remis en question aujourd'hui. Ça veut pas dire que c'est forcément la fin de la monogamie, parce qu'il y a toujours des gens qui auront envie d'être en couple avec la même personne.
Et à qui ça convient.
Mais les gens pour qui ça convient plus, par contre aujourd'hui c'est beaucoup plus admis socialement d'avoir d'autres modèles et c'est admis socialement d'explorer d'autres modèles, ouais. Et de pas s'enfermer dans ce modèle là, ouais, si on sent qu'il nous convient pas, et il y a moins de jugement et il faut travailler encore pour libérer les esprits, enfin la parole là-dessus, mais tous les modèles sont possibles, en fait c'est juste faut que ça se fasse dans le respect du consentement de chacun, mais à partir de là tout est possible, quoi.
Oui, voilà, c'est enfin. Après, faire du shaming, quelque part, des gens qui resteraient monogames, faut peut-être pas en arriver là-dessus non plus.
Ça serait inverser le truc, au final, c'est la même mécanique de pointer du doigt un truc et pour le diaboliser. C'est ce qu'on a fait pour les autres modèles que la monogamie, donc on va pas refaire ça à l'inverse, ça sert à rien. C'est un modèle parmi d'autres, ouais, c'est ça.
Il y a des super articles en anglais sur le site, c'est un magazine en ligne qui s'appelle Salty, donc S-A-L-T-Y, qui fait des super articles en fait, parce que c'est des personnes concernées qui parlent des sujets et qui souvent expliquent des choses de leur vie en fait par ces sujets. Et il y a des super articles sur la question justement polyamoureuse, polygame, polyandrique.
Polythéiste, non, ça c'est
non. C'est pas la même chose. La monogamie, enfin voilà, je me rappelle dernièrement avoir lu un article justement sur quelqu'un qui disait j'ai tenté d'être en relation polyamoureuse, ça ne m'a pas convenu, je suis revenue à la monogamie.
Ouais, mais au moins, elle a testé, quoi. Enfin, ouais. Faut s'autoriser à tester des trucs, quoi.
En fait, je suis en train de me dire, est-ce qu'on n'a pas sauté un truc dans la question? C'est monogamie et pas mono-amoureuse, tu vois. Genre, est-ce que le fait d'avoir une seule femme...
C'est quoi la différence entre mono... Enfin, c'est comme polyamour et polygamie, quoi. C'est
bah, en fait, ouais, voilà. Gamie, ça veut dire la femme. Polygamie, c'est le fait d'avoir plusieurs femmes. Donc,
Oui.
Est-ce que c'est nous qui sommes allés... Est-ce que c'était une façon sournoise de nous faire parler du fait de n'avoir qu'une seule femme, ou est-ce que c'était l'idée de n'avoir qu'un seul partenaire
Ouais, moi j'ai compris ça plutôt comme un seul partenaire. Ouais.
En cherchant polygamie et polyandrie, c'est là que je me suis dit, ah merde, c'est un truc qui marche pas.
Parce qu'on dit polyamour ou polygamie. Donc,
ouais, ou monogamie, c'est vrai, vu que c'est pas clair. Enfin voilà. Peut-être qu'il faut remplacer monogamie par
mono-amour. Mono-amour, quoi, ouais. Mono-relation, quoi. Mono de ski, non.
Non, pas mono de ski non plus.
Bah, oui, enfin, du coup, monogamie. C'est dans l'idée d'une société patriarcale, quoi.
Ouais, dans ce cas-là, oui, détruisons le patriarcat.
Oui, voilà, là, voilà. On est d'accord, oui, du coup, c'est la fin de la monogamie.
Tout à fait, détruisons le patriarcat, détruisons l'idée d'une personne toute sa vie...
assujettie à son propriétaire.
Oui, c'est ça, et détruisons l'idée de la virginalité obligatoire, mm-hmm. Détruisons l'idée de la sexualité obligatoire, voilà, détruisons le patriarcat.
Bah, de tous les impératifs, en fait, tous les impératifs, voilà, surtout sur les questions de relations humaines et de sexualité, on n'a aucun impératif à avoir, si ce n'est nos propres limites, quoi.
Oui, et le respect du
consentement.
Voilà, de pouvoir former un consentement éclairé et
intelligible.
Et conscient aussi, parce que, voilà.
Ouais, c'est ça, sans pression.
Oui. Et en comprenant les tenants et les aboutissants de la question.
À part ça, à bas le patriarcat, quoi.
Ouais, à bas le patriarcat. À bas le patriarcat, voilà.
Tendreté.
Qui a couru sur cette plage? Elle a dû être très belle. Est-ce que son sable était blanc? Est-ce qu'il y avait des fleurs jaunes dans le creux de chaque dune? J'aurais bien aimé toucher du sable une seule fois entre mes doigts. Qui a nagé dans cette rivière? Vous prétendez qu'elle était fraîche et descendait de la montagne? Est-ce qu'il y avait des galets dans le creux de chaque cascade? J'aurais bien aimé plonger mon corps une seule fois dans une rivière. Dites, ne me racontez pas d'histoire. Montrez-moi des photos pour voir si tout cela a vraiment existé. Vous m'affirmez qu'il y avait du sable et de l'herbe et des fleurs et de l'eau et des pierres et des arbres et des oiseaux. Allons, ne vous moquez pas de moi. Qui a marché dans ce chemin? Vous dites qu'il menait à une maison et qu'il y avait des enfants qui jouaient autour. Vous êtes sûr que la photo n'est pas truquée? Vous pouvez m'assurer que cela a vraiment existé? Dites-moi, allons, ne me racontez plus d'histoires. J'ai besoin de toucher et de voir pour y croire. Vraiment, c'est vrai? Le sable était blanc? Vraiment, c'est vrai? Il y avait des enfants, des rivières, des chemins, des cailloux, des maisons? C'est vrai? Ça a vraiment existé? Ça a vraiment existé?
Ce n'était pas qu'un mot, la lettre, ce n'était pas qu'une lettre,
Ce n'était pas qu'un seul mot. Il y avait une lettre. Il y avait une lettre et une lettre et une lettre et une lettre et une lettre. Et ça faisait des mots avec des lettres. C'était des lettres avec des mots. Il y avait des mots dans les lettres. Et les lettres étaient avec les mots. Et elles se promenaient. Et on se promenait. Et on est resté ensemble. Et pourquoi tu n'es pas resté avec moi? Et moi, je suis resté avec toi. Et pourquoi tu n'as pas voulu rester avec moi? Moi, je suis resté avec toi. Et nous sommes étés dans les mots. On était dans les mots. On était avec les lettres. Les lettres étaient avec les mots. Les mots étaient ensemble. On était avec les lettres. C'était la lettre. C'était mon mot. C'était ton mot. C'était mon mot. C'était ton mot. Et on est allé se promener. Je suis allé me promener avec toi. Nous avons parcouru des mots et des mots et des mots. Et nous avons parcouru très longtemps. Nous sommes allés parcourir. On est allé parcourir très longtemps. Et pourquoi tu t'en souviens pas? Je me souviens très bien. Non, tu te souviens pas. Si je me souviens très bien, il y avait des lettres. Et il y avait une lettre. Plus une lettre. Et la lettre. Égale la lettre. Égale la lettre. Et les lettres. Et toutes les lettres. Et ça faisait des mots. 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 Et je marche. Je marche. Je marche. Je marche. Je marche. Je suis dans les mots. Je marche. Je marche. Je marche. Je rampe. Je rampe. Je rampe. Je rampe. Je cours. Je cours. Je cours. Je cours. Il y a des mots partout qui plongent dans ma tête. Je suis dans la tête. Et je plonge dans les mots qui plongent dans les lettres. C'était, ce n'est qu'un mot, un mot, un petit mot. La lettre dit hier soir, c'était une lettre. Et hier soir, annoncé au téléphone, n'ayant plus, n'étant plus en rapport avec mon état d'esprit d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'état d'esprit des mots d'hier. Hier, il y avait les mots d'esprit d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai plus d'esprit. Je suis dans la lettre d'hier, mais hier, j'étais dans la lettre d'aujourd'hui. Je ne sais plus où je vais. Je vais habiter nulle part.
Ah, mais moi, j'ai toujours lu.
Minuit 45 à la baleine dans le bocal. On a une super tendreté qui vient de se terminer. Là, on était à fond dans le bocal.
On a
écoute,
du mal à reprendre parce qu'on était vraiment.
On était vraiment à fond dedans.
Penker, quel génie.
Fabuleux. On voulait reprendre avec autre type de lecture. Georges Perec et l'infraordinaire. Et je voulais lire le tout début. Approche de quoi ? Ce qui nous parle, me semble-t-il, c'est toujours l'événement, l'insolite, l'extraordinaire. 5 colonnes à la une, grosse manchette. Les trains ne se mettent à exister que lorsqu'ils déraillent, et plus il y a de voyageurs morts, plus les trains existent. Les avions n'accèdent à l'existence que lorsqu'ils sont détournés. Les voitures ont pour unique destin de percuter les platanes. 52 week-ends par an, 52 bilans, tant de morts et tant mieux pour l'information si les chiffres ne cessent d'augmenter. Il faut qu'il y ait derrière l'événement un scandale, une fissure, un danger, comme si la vie ne devait se révéler qu'à travers le spectaculaire, comme si le parlant, le significatif, était toujours anormal. Cataclysme naturel ou bouleversement historique. Conflits sociaux. Scandales politiques. Dans notre précipitation à mesurer l'historique, le significatif, le révélateur, ne laissons pas de côté l'essentiel. Le véritablement intolérable, le vraiment inadmissible, le scandale, ce n'est pas le grisou, c'est le travail dans les mines. Les malaises sociaux ne sont pas préoccupants en période de grève. Ils sont intolérables 24 heures sur 24, 365 jours par an. Les raz-de-marée, les éruptions volcaniques, les tours qui s'écroulent, les incendies de forêt, les tunnels qui s'effondrent, Publicis qui brûle et Aranda qui parle, horrible, terrible, monstrueux, scandaleux. Mais où est le scandale, le vrai scandale? Le journal nous a-t-il dit autre chose que « soyez rassurés » Vous voyez bien que la vie existe, avec ses hauts et ses bas, vous voyez bien qu'il se passe des choses. Les journaux parlent de tout, sauf du journalier. Les journaux m'ennuient, ils ne m'apprennent rien. Ce qu'ils racontent ne me concerne pas, ne m'interroge pas et ne répond pas davantage aux questions que je pose ou que je voudrais poser. Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel. Comment en rendre compte? Comment l'interroger? Comment le décrire? On a un retour super fort. Hein.
Putain, c'est trop fort.
Tu veux que je fasse une transition?
J'ai pas fini.
Ah oui, c'était pour te permettre de reprendre la lecture. C'était parce que je me suis dit, je rigole vachement moins qu'elle, alors je vais être plus capable de reprendre le truc.
C'est extrêmement perturbant.
Oui.
Très bien. Interroger l'habituel.
Et personne n'en a rien à foutre.
C'est ça qui est marrant, quoi. Je gueule, mais les gens. Non, voilà. Et voilà, on parlait juste avant du fait que j'avais pas envie de parler trop fort.
Bah voilà. Tu peux gueuler.
Je m'entends moi-même crier dans l'oreille au retour avec du décalage. Interroger l'habituel. Mais justement, nous y sommes habitués. Nous n'interrogeons pas, il ne nous interroge pas. Il semble ne pas faire problème, nous le vivons sans y penser. Comme s'il ne véhiculait ni question, ni réponse. Comme s'il n'était porteur d'aucune information. Ce n'est même plus du conditionnement, c'est de l'anesthésie. Nous dormons notre vie d'un sommeil sans rêve. Mais où est-elle notre vie? Où est notre corps? Où est notre espace? Comment parler de ces choses communes? Comment les traquer plutôt? Je ne vais pas pouvoir continuer, c'est pas possible.
Putain, je me rappelais pas que Perrex c'était si drôle.
Bon, elle est très drôle. Tu peux lire avec l'accent parisien.
Ah ouais, fait, lis avec des accents, tiens.
Ok. Je sais pas si c'est très bonne pour faire des accents. Attends, je suis arrivée où?
L'accent
russe. L'accent russe, allez.
Oh, vas-y, attends, moi aussi je vais lire avec l'accent russe.
Comment parler de ces choses comme une... Comment les traquer plutôt? Comment les débusquer? Comment les arracher à la gang dans laquelle elles restent en vie?
Vas-y, on fait un dialogue. Tu lis une phrase et je lis une phrase.
Comment leur donner un sens, une langue, qu'elles parlent enfin de ce qui est, ce que nous sommes?
Il n'est pas donné à chacun de prendre un bain de multitude. Jouir de la foule est un art, et celui seul peut faire, aux dépens du genre humain, une ribote de vitalité.
J'ai encore du mal à reprendre avec l'accent que je faisais. Peut-être s'agit-il de fonder enfin notre propre anthropologie, celle qui parlera de nous, qui ira chercher en nous ce que nous avons si longtemps pillé chez les autres, non plus l'exotique mais l'endotique.
Multitude, solitude, terme égaux et convertible par le poète actif et fécond, qui ne sait pas peupler sa solitude, ne sait pas non plus être seul dans une foule affairée.
Interroger ce qui semble tellement loin de soi que nous en avons oublié l'origine. Retrouver quelque chose de l'étonnement que pouvait éprouver Jules Verne, ce lecteur en face d'un appareil capable de reproduire et de transporter les sons. Car il a existé cet étonnement et des milliers d'autres, et ce sont eux qui nous ont modelés.
Le poète. Ah ouais, donc attends, vas-y, on n'a pas fini.
Ah non, mais j'ai pas fini encore, on va au bout d'approche de
quoi quand même. Attends, trop compliqué. Le poète jouit de cet incomparable privilège qu'il peut à sa guise être le lui-même et autrui. Comme ces âmes errantes qui cherchent un corps, il entre quand il veut dans le personnage de chacun. On reprend, merde. Ok. Tony Cruz.
Oui, c'est mon marque-page, pardon, j'ai des marque-pages footballeurs.
Ok, on ne te juge pas.
Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la... c'est la brique, le béton, le verre.
C'est comment? Tu peux répéter, s'il te plaît? Je n'ai pas bien compris. Les illusions, me disait mon ami, sont aussi innombrables.
Pas d'accent.
Ah oh, merde, oublie l'accent. Les illusions.
C'est beaucoup plus facile sans.
Me disait mon ami, sont aussi innombrables peut-être que les rapports des hommes entre eux ou des hommes avec les choses. Et quand l'illusion disparaît, c'est-à-dire quand nous voyons l'être ou le fait tel qu'il existe en dehors de nous, nous éprouvons un bizarre sentiment. Compliqué, moitié de regret pour le fantôme disparu, moitié de surprise agréable devant la nouveauté, devant le fait réel. Pardon Baudelaire, putain c'est horrible.
Tu lis du Baudelaire quoi. Bon, ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique. Le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes, interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner. Nous vivons certes, nous respirons certes, nous marchons correct. Nous ouvrons les portes, nous descendons des escaliers, nous nous asseyons à une table pour manger, nous nous couchons dans un lit pour dormir. Comment, où, quand, pourquoi?
À moi. C'est pas fini encore. Putain. Malheureux peut-être le nom, mais heureux l'artiste que le désir déchire. Je brûle de peindre le sel qui m'est apparu si rarement et qui a fui si vite comme une belle chose. Putain, c'est dur à dire l'air. Derrière le voyageur emporté dans la nuit.
Décrivez votre rue, décrivez-en une autre, comparez.
Je la comparerai. Eh, réponse directe.
Waouh.
Ouais.
Ça y est, j'espérais qu'il peut de l'air. Parlons ensemble.
Le match de ouf. Je la comparerai à un soleil noir, si l'on pouvait concevoir un autre noir, versant la lumière et le bonheur.
Faites l'inventaire de vos
c'est
poches.
C'est même plus un accent, quoi. Vraiment.
Il y a du monde qui écoute. Hein. Pensez-y. Petite case dédiée.
Faites l'inventaire de vos poches, de votre sac. Interrogez-vous sur la provenance, l'usage et le devenir de chacun des objets que vous en retirez. Questionnez vos petites cuillères. Qu'y a-t-il cuillères sous votre papier peint? Combien de gestes faut-il pour composer un numéro de téléphone et pourquoi? Pourquoi ne trouve-t-on pas de cigarettes dans les épiceries? Pourquoi pas? 07 79 90 60 51. N'hésitez pas à appeler si vous trouvez ça un petit peu dur. Il me reste un paragraphe. Tu veux faire une ponctuation ou je termine?
Une ponctuation, genre virgule,
si tu veux.
Au choix, un point virgule, deux points même.
Mais ça marche très bien avec Perec, je pense.
Ok. Tu me fais un signe comme ça, je fais les virgules.
Il y en a plein en plus. Il m'importe peu que ce soit que. Il m'importe peu que ces questions soient.
Virgule.
Ici.
Virgule.
Fragmentaire.
Virgule.
À peine indicatif d'une méthode.
Virgule.
Tout au plus d'un projet.
Virgule. Non, point, pardon.
Il m'importe beaucoup qu'elle semble triviale et futile.
Virgule. Deux points.
C'est précisément ce qui les rend tout aussi.
Virgule.
Sinon plus.
Virgule.
Essentiel que tant d'autres au travers desquels nous avons vainement tenté de capter notre vérité.
Point.
Bravo. Ah, excellent. Ouais.
J'avais jamais lu Perec comme ça.
On se quitte avec la tendreté 7, pardon.
Tu as la destination, j'ai la valise. Tente de gagner, envoie ton 06 Malakila au 07 79 90 60 51. Ça pimentera tes vacances.